Polar, la plus rock de la bande FM.
Bonsoir Jacques.
Bonsoir Corinne.
Eh bien, le sommaire de cette émission, donc des livres que nous avons remarqués ces derniers mois. Dans une première partie, on va faire ce que j'ai appelé un spécial métayer, puisque d'abord on va fêter un anniversaire et puis je vais vous parler de deux romans qui sont parus chez cet éditeur. Et puis, dans une deuxième partie, eh bien, divers romans qui sortent du lot et que nous avons beaucoup appréciés. Donc, comme je le disais, cette année, en 2014, je ne sais pas exactement quand en fait, mais les éditions Métayer ont 35 ans. Donc, si vous faites le calcul très vite, tiens, j'ai un chat dans la gorge, c'est pas très grave. Métayer a été fondé en 1979 par Anne-Marie Métayer, toujours aux commandes, d'où le nom éponyme des éditions. Et cette maison d'édition, elle nous propose toujours, on en parle régulièrement, des ouvrages de grande qualité. Dans le genre littéraire que nous défendons, il y a quelques grands noms du polar. Il n'y a pas que du polar d'ailleurs dans ces éditions. Citons par exemple Arnaldur Indridason, l'Islandais, Ramón Díaz Eterovic et Leonardo Padura dans la collection hispano-américaine. Plus près de nous, on a les suites italiennes, collection dirigée par le grand spécialiste de la littérature italienne qui est Serge Cadrupani. Je cite par exemple, mais il y en a plein d'autres dans les suites italiennes. Loriano Machiavelli, Giancarlo Di Cataldo, Massimo Carlotto, voilà. Bien d'autres auteurs à travers le monde. Par exemple, leur dernière découverte en Espagne, Cristina Falaras. Et n'oublions pas...
Falaras,
oui, ça, j'y arrive pas, j'y arriverai jamais. C'est pour ça que je vais vous parler... Ben, je vais vous parler d'un film, d'un livre espagnol en plus. On va quand même pas oublier Olivier Truc, avec Le Dernier Lapon, un des plus grands succès éditoriaux en 2013. Donc je vais vous parler aujourd'hui de deux nouveaux venus, l'un dans la collection Métayer Noir, du Noir de Noir d'ailleurs, qui est un roman qui s'appelle Ce qui n'est pas écrit. C'est un roman de Rafael Reg, un auteur espagnol, qui est traduit par Myriam Chirous. C'est bien deux noms que je peux facilement prononcer.
On dit peut-être Reig, mais... C'est
ça
pas
doit
grave.
Être ça, oui, mais enfin, de toute façon, quand vous allez aller dans votre librairie et que vous regarderez la couverture, vous lirez comme moi Rafael Reg. Na.
Exactement.
Donc l'autre roman dont je vous parlerai n'est pas à proprement parler un roman noir dans sa forme, mais les thèmes développés dans la théorie générale de l'oubli, Théorie générale de l'oubli, c'est le titre de l'ouvrage, sont en fait bien proches du genre. Ce deuxième roman dont je parlerai est de José Eduardo Agualusa, là encore, je ne prononce certainement pas très bien, c'est un Angolais. Vous savez ou vous ne savez pas que l'Angola était un territoire portugais.
Lusophone, donc.
Voilà, lusitophone.
Lusitophone,
je préfère, oui.
Lusophone, ça fait un peu vieille marque de,
ouais, ouais.
De gramophone.
Exactement. En fait, c'est son sixième roman traduit, donc du portugais en français. La traduction est de Geneviève Leibrich. Revenons donc à Ce qui n'est pas écrit de Rafael Reg. Comme je l'ai déjà dit, un roman très noir. Les thèmes, c'est les relations familiales et justement les non-dits. Sur ce que l'on a du mal à dire dans les yeux de l'autre, que ce soit un mari, une femme, un adolescent, ce que l'on n'arrive pas à lire dans les lignes de la vie, parce que l'autre, finalement, c'est un presque inconnu, parce que souvent on se ment à soi-même, parce que souvent on arrive mal à se raconter. Donc dans ce roman, on a trois personnages. Carmen, la mère, qui élève son fils, Jorge, que j'appellerai pour le reste de l'histoire Georges parce que j'y arriverai pas. Et puis il y a Carlos, le père. Au début de ce roman, Carmen et Carlos sont séparés. Ils se sont aimés, ou bien ont-ils joué une comédie à un moment. Georges est né, et les relations se sont lentement dégradées, mais pas trop. Le couple s'entend bien pour le bien du fils. Pour un week-end, Carlos emmène son adolescent de fils, qu'il connaît si mal, dans une excursion en montagne. Carlos aime son fils, ça c'est sûr. Mais il le trouve trop mou, trop, je cite, le fifis à sa maman. La balade va tourner au cauchemar. Chaque acte du fils, Georges, indispose son père, qui le rabroue, l'humilie, s'y prend tellement mal, même s'il veut le comprendre. Georges tente d'être à la hauteur, mais entre les deux, on sent bien qu'un affrontement terrible est en train de se nouer. Et on a constamment l'impression d'être au bord d'un abîme, sans jamais savoir comment cela va basculer. Pendant ce temps, restée à la maison, Carmen découvre un manuscrit de Carlos. Il faut dire que Carlos, quand elle l'a rencontré, il était un peu poète, donc il tente l'écriture. Et ce manuscrit, c'est un polar sordide. Mais au fur et à mesure de la lecture, elle pressent que le récit n'est en fait qu'une retranscription d'une certaine réalité, que la fillette enlevée dans le manuscrit est Georges, enlevée par son père. Et si la vérité, encore une fois, transparaissait entre les mots, dans ce qui n'est pas écrit? C'est donc un roman qui s'interroge et qui interroge les rôles que doivent tenir un père et une mère. Rôles doivent-ils être innés ou imposés par la pression sociale? On ne saura jamais. Un petit extrait. Insomniaque, réveillé, allongé sur le dos, son fils frôle presque son corps. Il l'aime. Lui, il n'imagine pas à quel point il l'aime. L'amour d'un père est rude. C'est comme ça. Il ne peut rien y faire. Ça fait partie de la nature des choses. Les mères, c'est une autre histoire. Plus moelleuse, molletonnée, chaude, avec tous ces endroits mous où appuyer la tête, tous ces lieux accueillants pour être consolée et se sentir aimée. Ce que c'est dur, au contraire, de mériter l'amour d'un père ou sa simple approbation. Qu'on vienne lui dire ça à lui, Carlos Mendoza, qui n'a jamais réussi à soutenir le regard de son père, jusqu'à ce qu'il soit trop tard, parce qu'il l'avait laissé seul, tout seul avec sa mère. Tous ces efforts inutiles, toute cette douleur en vain, toute cette passion dont on ne sort pas indemne. Ce que ça donne froid de poser son front sur la poitrine d'un père, cette vitre glacée, incapable de nourrir un fils. La poitrine d'un père, c'est une pierre tombale. Voilà, je trouve que cet extrait donne plutôt bien le ton du roman.
Je ne l'ai pas encore lu, mais ça me fait penser un peu à du David Vann, je ne sais pas si...
Oui, alors évidemment, on pense à David Vann. On pense aussi à Thomas H. Cook et son magnifique roman « Les feuilles mortes », un roman paru il y a quelques années à la Série Noire chez Gallimard. Et en gros, cette insoutenable incommunicabilité des êtres humains, y compris, ou peut-être surtout, entre un père et un fils. Dans ce roman, donc ce qui n'est pas écrit, Raphaël Reig utilise une double narration, je dirais très originale. C'est souvent qu'on a des romans polyphoniques, mais là, la double narration qui se renvoie l'une l'autre, je la trouve vraiment intéressante. Et parce que ça va aborder des questions essentielles. Donc on a d'un côté le père et le fils, en plus dans une nature hostile, maléfique, irréelle, qui va à la fois les révéler, les élever, les faire chuter. Et de l'autre, dans un appartement, cloîtré pratiquement, une mère qui décrypte avec effroi, dans un manuscrit, ou croit décrypter, sa vie et les relations avec son fils et son ex-mari. Et évidemment, au milieu, il y a le lecteur, qui est manipulé. Il pense constamment avoir une longueur d'avance sur les personnages. C'est juste pour que le lecteur s'inquiète de plus en plus et puisse prévoir le pire. En gros, c'est glaçant, dérangeant, déstabilisant. Mais en gros, pour moi, c'est aussi signe qu'on a un très grand roman noir. Donc je rappelle le titre, Raphaël Reig, Ce qui n'est pas écrit, traduit par Myriam Chirous, donc traduit de l'espagnol. Et comme je l'ai dit au début, c'est aux éditions Métayer. Jacques, un petit peu de musique?
Un petit peu de musique, alors avec un groupe qui s'appelle Musica Nuda, qu'on passe ce soir parce qu'ils seront en concert demain à la salle Grappelli. Donc je vous engage, ceux qui peuvent et ceux qui sont dans la région, à Nice évidemment, ceux qui nous écoutent très proches dans la région et pas sur internet, d'aller les voir, on y sera
les
probablement,
écouter.
Et les écouter aussi. Voilà, et donc c'est un duo, mais dans ce morceau, en fait, c'est un duo chant et contrebasse, mais dans ce morceau, ils sont accompagnés au piano par Stefano Bolani, le fameux Stefano Bolani, pianiste italien. Et le morceau s'appelle The Very Thought of You, avec mon merveilleux accent, que vous connaissez peut-être par Billie Holiday ou Sarah Vaughan, ou Ella, peut-être pas Sarah Vaughan, mais Ella Fitzgerald aussi.
Pour une fois, je me permets un petit commentaire sur la musique. Il faut dire que Musica Nuda fait beaucoup, beaucoup dans les réinterprétations et les adaptations de morceaux connus.
Ils chantent quelquefois de leur propre composition, mais c'est souvent effectivement des réadaptations. Et là, ça ressemble beaucoup à du jazz vocal. C'est vraiment tout à fait magnifique. Musica Nuda.
Et tout de suite. Thought of you and I forget to do the little ordinary things that everyone ought to do. I'm living in I'm happy as a queen and foolish though it may seem to me that's everything the mere idea of you alone never know how slow the moments go till I'm near to you. I see your face in every flower, your eyes and stars above. Just a thought of you, the very thought of you, my your eyes
in stars above. Musica Nuda, quelle superbe voix quand même.
Oui, et bien une autre voix dont je vais vous parler, c'est la voix de Ludo, parce que Ludo, dans le livre de José Eduardo Agualusa, qui s'appelle Théorie générale de l'oubli, lui aussi paru chez Métayer, eh bien, cette voix de Ludo, on l'entend. C'est pas, on fait pas que lire le récit, on l'entend. Et Ludo, elle a vraiment vécu. Son véritable prénom, c'est Ludovica. Et pendant les émeutes, les révoltes qui ont conduit à l'indépendance de l'Angola en 1976, eh bien, Ludovica, elle a tout simplement décidé de s'emmurer pour vivre loin de la folie des hommes. Et ce qui est étonnant, c'est qu'elle a survécu 30 ans. Elle est restée emmurée 30 ans avant d'être découverte. Grâce au carnet qu'elle a écrit, grâce au graffiti dont elle a couvert les murs de ce qu'il faut bien appeler sa prison, l'écrivain angolais, je rappelle qu'on est en Angola, elle a écrit un roman. Il a écrit un roman tendre et violent à la fois, à l'image des personnages qu'il fait vivre dans son histoire. Car Ludo, elle est seule, avec son chien, au nom symbolique de fantôme, et puis un cadavre. Elle cultive son petit potager sur la terrasse, mais elle est malgré tout citoyenne d'une ville, et cette ville, elle est en pleine guerre civile, avec ses victimes, ses mercenaires, l'armée, les flics, les Portugais qui ne veulent pas abandonner leur univers, les Angolais qui rêvent de liberté. Et José Eduardo Agualusa, il tisse les liens entre chacun de ces personnages. On a Jérémias, par exemple, qui va avoir la possibilité d'endosser une autre peau, mourir, revivre. On a Petit Roi, lui c'est un mendiant. Alors là, on est comme dans un conte. Il trouva des diamants dans un pigeon et un message pour un rendez-vous amoureux. Il y a Monté, le flic, et son amoureuse Maria Clara. Daniel Belchimol, qui collectionne les histoires de disparition en Angola. Et puis, Maria Depiedade, qui cherche sa mère. Et, en une subtile architecture du hasard, ça c'est le titre d'un des chapitres, tous ces fils s'entremêleront. Les destins se croiseront enfin, grâce à un enfant, Sabalou. Ce livre, c'est une tragédie. Des tragédies, devrais-je dire. Puisqu'à travers l'histoire de Ludo, Agualusa nous livre quand même une vision de son pays dans la tourmente. Donc, je répète, en 1976. Mais ces tourmentes, elles sont racontées au rythme des poèmes de Ludo, au rythme des histoires individuelles de quelques êtres humains perdus dans cette tourmente, à la recherche chacun, de la bonne ou de la mauvaise manière, à la recherche chacun d'un petit bout d'humanité. Et il y a aussi la voix donc de Ludo qui, elle, est seule et qui voit le ciel à l'infini et puis entend quelques bruits de la rue. Et je vais finir cette chronique comme Agualusa termine son roman, avec des vers de Fernando Pessoa, qui, je le rappelle, est un des plus grands poètes portugais, était un des plus grands poètes portugais. Donc voici cet extrait de poème. La réalité est toujours plus ou moins que ce que nous voulons. Nous sommes seuls, toujours égaux à nous-mêmes. Vivre seul est doux, vivre simplement, toujours, est noble et grand. Sur les autels, en ex-voto, pour les dieux, laisse la douleur. Regarde la vie de loin, ne l'interroge jamais. Elle ne peut rien te dire. Voilà, je trouve que cet extrait correspond particulièrement bien au personnage de Ludo et à l'histoire que veut nous raconter José Eduardo Agualusa. Alors, je ne me souviens plus si j'ai dit le nom de la traductrice, parce que je me souviens bien que c'est une traductrice. Elle s'appelle Geneviève Leibrich. Voilà. Donc, deux romans de chez Métayer à découvrir, mais il y en a plein d'autres, en particulier le dernier Ingrid Hasson de elle. Voilà. On se retrouve dans la deuxième partie de l'émission.
Après les informations.
Après les informations.
À tout à l'heure.